Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Pour débriefer cette histoire, voici Maître Emmanuel Rigler du barreau de Lille. Vous étiez Maître Rigler, l'avocat des parents, de la sœur et de la petite fille d'Odile dans ce dossier. Peut-être pour commencer, un commentaire sur le quantum de la peine. Donc pour assassinat et viol, Olivier Touche encourait la perpétuité. 25 ans, est-ce que vos clients sont satisfaits ?
Écoutez, ils avaient besoin d'avoir la vérité, de connaître le réel déroulé, c'était l'essentiel pour eux, et d'être effectivement certain que justice passerait. Le quantum importait peu, ils voulaient simplement être sûrs que la jeune fille qui se retrouvait orpheline de maman et avec un père en détention soit majeure à sa sortie de prison, pour être certain que c'était elle qui choisissent de reprendre ou pas des contacts un jour avec lui ou pas.
Pour vous, la préméditation, qui est donc reconnue par les jurés, ne fait aucun doute.
La préméditation, véritablement, ne posait aucun doute parce qu'il s'était équipé. Il avait pris des vivres, il avait pris des cordes, il avait pris des éléments avec lui dans le grenier qui lui permettait de répondre à tous les scénarios possibles. Et donc, on se doute bien qu'il ne voulait pas effectivement juste l'attacher pour un jeu, mais au contraire, lui donner la mort, ça ne posait pas de difficulté, non.
Et Léana, justement, donc le père tue sa mère, ce qui fait qu'elle devient dans la seconde orpheline. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette petite fille qui a grandi depuis ?
Oui, très régulièrement. Écoutez, elle a grandi avec une de ses cousines, puisque la victime avait une seule sœur qui s'est magnifiquement occupée d'elle, et les filles qui avaient à peu près le même âge ont pu grandir ensemble, et donc elle s'est retrouvée avec une famille de substitution qui s'est battue, qui se bat. Il y a rien de définitif, rien d'acquis, mais en tous les cas, elle a été couverte d'amour. Voilà.
J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il n'est pas exclu qu'elle revoie son père un jour.
Non, la question ne se pose pas aujourd'hui. C'est très clair dans sa tête, mais en tout état de cause, il ne fallait pas que ce soit à quelqu'un d'autre qu'elle de choisir. Et quelle est la liberté, effectivement, d'apprécier. Aujourd'hui, sa politique est faite et sa position est ferme, mais c'est quelque chose dont on ne voulait pas la priver. Léana a été couverte d'attention, et on a fait en sorte que la famille a fait en sorte qu'elle puisse être une jeune femme équilibrée et avec conscience de tout ce vécu.
Alors, j'avoue qu'on a un peu de mal à saisir le mobile de cet assassinat, et ça m'intéresserait bien d'entendre comment, à quelle réponse est-ce que vous êtes arrivé vous-même.
Il n'y a aucun mobile. Cet homme a tué et a prévu de tuer quelqu'un qui était la seule personne à lui venir encore en aide, qui le supportait encore, qui lui tendait la main, qui lui prêtait le peu d'argent qu'elle avait. Il n'y a absolument, effectivement, aucun autre mobile que l'égocentrisme, que l'égoïsme et de quelqu'un qui a vraiment effectivement tué son jouet, tué son ancien esclave, tué sa chose. Non, il n'y a véritablement aucune excuse au bénéfice de cet homme.
Mais Maître Rigler, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il tue parce qu'il est assommé de dettes ? C'est-à-dire que c'est un type au fond du trou, quoi.
Oui, après, nous n'avons pas tous la même capacité à nager. Et on peut se noyer effectivement dans un verre d'eau. Les dettes qu'il avait étaient tout à fait épongeables. La Banque de France aujourd'hui vient en aide à des millions de gens dans la même situation. Il n'y avait rien d'impossible. Il suffisait à cet homme de travailler, de reprendre le travail. Il avait obtenu une très forte indemnité de licenciement qu'il avait dépensée très vite. Et il suffisait qu'il se remette au boulot pour que tout s'éponge. Au contraire de cela, effectivement, il s'est enfermé dans des dédales dont il n'a jamais su effectivement sortir.
Est-ce que quelque part il n'est pas un peu jaloux de sa femme ?
Mais il est jaloux de tout, malheureusement. Il est jaloux de sa simplicité, il est jaloux de sa bonne volonté, il est jaloux de sa bonne humeur, il est jaloux de ses amitiés, il est jaloux de ses rencontres, il est jaloux absolument de tout, et sa jalousie lui fait même oublier qu'ils ont une fille en commun, et que cette femme lui lave encore son linge et lui donne encore de l'argent.
Ah, parce qu'elle faisait tout ça encore ?
Encore, oui, encore et toujours. Oui, tout à fait. Ce sont des gens très simples que je défends, et qui sont remplis effectivement de d'attention. Le grand-père s'occupe du resto du cœur, de la solidarité locale dans la commune. Il est conseiller municipal chargé des affaires sociales. Enfin, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main.
Et d'ailleurs, le grand-père meurt en quelque sorte de chagrin.
Il s'éteindra peu de temps après, effectivement. Il aura un grave accident de la route aussi peu de temps après qui le perturbera beaucoup et tout cela est vraiment lié.
Il se laisse aller, quoi.
Et toute la famille est effectivement dans le deuil depuis maintenant fort longtemps, oui.
Il faut quand même répondre à cette question. Avait-elle ou pas, Odile, beaucoup d'amants, comme lui le disait ?
Non, absolument pas. Ce sont effectivement ces fantasmes, ces fictions. Vous avez rappelé ces photomontages, ces jaquettes de vidéos, tout ça est propre dans son délire. Elle n'était inscrite sur aucun site, elle n'était répertoriée nulle part. Elle rencontrait effectivement des gens sur son travail, dans sa vie, des voisins aussi, mais qui ne finissaient pas dans son lit.
Mmh. Elle n'avait pas d'amant en vérité.
Mais même pas, elle avait plein d'autres choses à faire. Déjà un travail avec des horaires totalement décalés, une petite fille à élever, les dettes de son compagnon, de son ex-compagnon à éponger. Enfin, sa vie ne laissait pas place à grand-chose d'autre que les réalités du quotidien.
Alors parlons maintenant de la perversité de cet homme. Les DVD et les photos, qu'est-ce qu'ils font dans l'ordinateur d'Odile ?
Ce sont effectivement des choses qui sont depuis longtemps dans l'ordinateur, à une époque où il était encore avec elle.
Oui, c'est un ordinateur commun, quoi.
C'était l'ordinateur de la maison, de la famille, qui était effectivement rangé. Et oui, il faut effectivement chercher dans la psychologie de ce monsieur une réponse, parce que dans nos psychologies, on ne trouvera jamais rien qui puisse répondre à telles interrogations. Enfin, je ne comprends pas qu'il ne se calme pas quand il fait ses montages, ses découpages. Enfin, ça frise véritablement la folie par moment, oui.
Mais est-ce qu'Odile, du coup, puisque ses photos étaient dans son ordinateur, est-ce qu'elle savait qu'il prenait ses photos ?
Absolument pas.
Depuis le grenier ?
Non, absolument pas. On a tous découvert, effectivement, les trous qui avaient été percés. D'ailleurs, il faudra des investigations poussées de la police technique et scientifique de la PJ, parce qu'effectivement, aux premières visites, aux premières inspections, perquisitions, rien ne sera décelé. Il a fait ça avec beaucoup d'habileté, ce qui vous rendra d'ailleurs encore plus crédible la circonstance aggravante de préméditation.
Que disent les psychiatres à son sujet ? Parce que là, on a affaire à une perversité extrêmement rare. Être le mateur de sa propre femme, qu'on peut voir à poil quand on veut le soir, au moment de se coucher, etc. Pourquoi est-ce qu'il la regarde Qu'est-ce qu'ils disent les psychiatres là-haut ? Pourquoi est-ce qu'il la regarde du grenier ?
Il n'a pas spécialement besoin de la voir à poil. Il a besoin de vérifier absolument tout ce qu'elle fait. Il lui prête une sexualité folle. Il lui prête des aventures. Il lui invente des masturbations dans la douche. Enfin, il lui prête véritablement toutes les vies possibles. Et il a besoin de contrôler, de s'assurer que c'est vrai ou que c'est faux, mais en tous les cas, il veut tout maîtriser et tout savoir. Et cette course le pousse à ses excès qui vont jusqu'à tuer cette femme d'une simplicité extraordinaire, mais extraordinaire aussi pour le reste des qualités.
Mais les psychiatres, donc, ils disent quoi ? Vous vous souvenez de ça ?
Ah, qu'il est... Oui, bien sûr, ce dossier est tout frais encore dans nos mémoires, parce que je suis toujours en contact avec ce qu'il reste de cette famille. Oui, les psychiatres nous parlent d'un... Il n'a pas de maladie mentale, il est juste égocentrique, il est juste, effectivement, tourné et obsédé par lui-même. Il n'y a que sa propre vie et il n'y a que lui qui l'intéresse.
Il y a un côté psychopathe, parce qu'il n'a strictement aucune empathie. J'ai utilisé l'expression, mais elle m'est venue toute seule, mais je la trouve pas mal, un cœur sec.
Oui, moi j'aurais dit pas de cœur.
Du tout.
Mais oui, parce qu'il sait qu'il y a effectivement cette petite fille au milieu de tout ça et que forcément elle doit être paramétrée à un moment ou un autre dans ses choix et dans ses décisions et que même sec, quand on a une petite fille aussi extraordinaire que cela, eh bien on arrive à se freiner, sauf à être malade mental, et il ne l'est pas.
Merci infiniment, maître Emmanuel Rigler, avocat de la partie civile dans ce dossier.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.